On se retrouve ici pour ce deuxième jour d'Esperanza à bord de Monique, notre van sonore, avec de tout nouveaux invités qui sont, je l'espère, pas trop fatigués puisqu'ils viennent de terminer un débat très important puisqu'il concerne la santé globale inclusive. Alors avant de démarrer, je vais vous laisser vous présenter rapidement, histoire qu'on puisse comprendre qui vous êtes.
Bonjour, je suis Sandra Aubry, je suis psychologue, psychothérapeute. Je travaille dans le domaine des maisons médicales et plus spécifiquement, la plupart du temps, je le consacre à la Fédération des maisons médicales, qui promeut le développement des maisons médicales et qui a également un plaidoyer politique pour aller vers un système de santé qui soit plus intégré, de façon très concise.
Alors moi je suis Delphine Thézé, je suis actuellement référente médicale à Médecins du Monde et aujourd'hui c'était notamment moi qui organisais ce débat sur la santé globale inclusive. Alors Médecins du Monde, nous notre mission première c'est un accès à la santé dans sa globalité pour toutes et tous, un accès aux soins et en fait je peux vous le dire déjà maintenant, c'est pas du tout effectif, d'où notre mission aussi en Belgique et pas que à l'international.
Bien bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter ce que je dis. Donc moi c'est Xavier Paty, je suis un infirmier généraliste de terrain, je travaille en maison médicale et tout comme Sandra, je travaille aussi pour la Fédération des maisons médicales. Et comme je ne sais pas m'arrêter là, je suis aussi coordinateur de l'ASBL Bruxelles qui s'occupe de la précarité menstruelle pour la province de Liège.
Bonjour, moi c'est Sophie, je suis infirmière et travailleuse sociale à Dune ASBL, qui est une association qui pratique la réduction des risques liés aux usages de drogue en milieu précaire. Et on travaille avec un public très marginalisé, précarisé, exclu de la société, qui a consommé ou consomme des produits dans son parcours de vie.
Déjà, merci à tous les quatre d'être présents pour répondre à mes questions. On va essayer ensemble de déconstruire au maximum vos enjeux et vos réalités. On va discuter de thématiques qui ont été abordées pendant le débat. Un débat qui a été assez long, mais qui est passé très très vite. Je vais passer tout de suite à la première question. On va essayer d'être spontané. Il n'y a pas de souci. Celui qui veut répond et il n'y a pas d'ordre de passage. Selon vous, la santé, c'est un privilège de riches?
Privilège de riche. Je dirais que oui et non. Si le riche n'a pas de chance et que dans son code génétique, il chope un cancer, tant pis pour lui. Maintenant, je dois dire que si on prend la santé de manière globale, je pense qu'effectivement, une personne avec moins de moyens financiers, moins de ressources, qu'elle soit intellectuelle ou financière, effectivement, on va parfois se retrouver dans des situations assez précaires et c'est plus difficile de trouver une bouée de sauvetage quand on est noyé à un moment donné dans la maladie. Je prends le cas de l'alcoolique. L'alcoolique riche aura peut-être plus... Déjà, ça se verra moins vite. Il aura peut-être plus de ressources. Une personne diabétique aura peut-être accès plus facilement avec un peu plus d'argent à des spécialistes. Maintenant, c'est un avis que j'ai. Face à la santé, on ne part peut-être pas tous du même point de vue non plus.
Moi, je vais parler des publics du coup que j'accompagne qui, eux, pour le coup, ont de grandes difficultés à avoir un accès aux soins. Et donc, nous, on crée le lien avec ce public et l'accroche et on essaye de les accompagner vers une orientation, vers les structures d'aide et de soins classiques. Mais on se rend bien compte que c'est souvent encore le parcours du combattant pour certains et que s'ils ne sont pas accompagnés par des professionnels qui sont au courant de leurs droits et qui font en sorte qu'ils soient respectés, ça reste encore difficile pour eux d'accéder aux soins. Voilà.
Moi, j'ai envie de rebondir sur la question de la santé mentale qui actuellement nécessite encore un financement qui permette une accessibilité aux soins. Et l'expérience montre effectivement que les personnes qui ont accès à la psychologie ou psychothérapeute sont des personnes qui, généralement, en tout cas dans le privé, ont quand même un certain budget. Donc effectivement, les espaces comme les services de santé mentale ou les plannings familiaux sont des espaces qui sont engorgés. Donc quand on veut relancer ou collaborer avec le réseau, c'est très compliqué. Donc effectivement, d'une certaine façon, c'est un privilège de personnes effectivement plus aisées, de riches. Maintenant, il y a également beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là, beaucoup de prise de conscience et beaucoup de mobilisation pour que ce soit plus accessible. Mais c'est encore un gros, gros chantier.
Et de mon côté, je vais déjà essayer de prendre la santé vraiment dans sa globalité. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres et tout bêtement, pourquoi est-ce qu'on est ici ? Voilà, on vit jusqu'à une date presque de péremption. Enfin, on a tous une espérance de vie et en fait, on voit typiquement dans les chiffres qu'elle est différente en fonction de si on est un cadre ou si on est un ouvrier. Et donc, juste ça montre qu'en fait, oui, il y a une différence entre les personnes les plus aisées et les personnes les plus défavorisées. Et ça, c'est le cas pour aussi toutes les problèmes de santé qui sont répartis selon les plus pauvres ou les plus riches. Un enfant d'ouvrier ou d'ouvrière va avoir une santé bucco-dentaire vraiment moins bonne santé qu'un un fils ou une fille de cadre. Et ça, c'est vraiment un indicateur au niveau d'une population. Et puis, encore une fois, pour accéder à la santé, aujourd'hui, c'est monnayé. On doit encore payer un reste à charge du patient ou de la patiente après une consultation, et ça, tout le monde n'est pas capable de le sortir en fait, ce coût, et donc c'est pas accessible à tous et à toutes. Donc oui, c'est un privilège de personnes qui ont les moyens.
Justement, comment expliquez-vous la différence entre le quotidien des patients, des demandeurs de soins de manière générale en fonction de vos secteurs et la réalité du monde médical, en tout cas celle qu'on lui donne ?
Moi, j'ai besoin qu'on précise un peu la question. J'ai besoin que tu ailles un peu plus loin dans ton...
Il y a le quotidien vécu par vos patients, vécu par les personnes qui vivent à la rue. Et puis, il y a les moyens qu'on donne au monde médical et les moyens que ce soit par rapport aux hôpitaux, que ce soit par rapport aux médecins, etc., psychologues et autres. Comment vous expliquez un peu ce clivage ? Ça ne correspond pas, ça ne colle pas.
Je vais commencer la question, même si les questions d'argent sont m'intéressent moins en soi même. Voilà, mais clairement, on est dans un système actuellement, même s'il y a des alternatives. Hein, mon collègue Xavier et moi-même faisons partie d'un mouvement qui pratique la médecine et la prise en charge de la santé selon un système forfaitaire. Néanmoins, ça reste effectivement minoritaire, mais dans la grande majorité des cas, on est quand même avec un système assez capitaliste qui voit les choses et qui voit la santé comme du business, en fait. On est obligé de dire les choses comme ça, ça doit être rentable, et on sort d'un gouvernement effectivement où c'était vu de la sorte, et donc du coup à côté de ça, il y a effectivement la réalité des gens qui fait que la santé se complexifie parce que la population vieillit, parce que les maladies chroniques sont de plus en plus importantes, parce que on va vers des notions de burn-out, de choses qui prennent beaucoup, de maladies ou de mal-être qui prennent beaucoup plus de place, et on sort de la logique un symptôme, un médicament et on se soigne. Il faut voir les choses de façon plus globale. Et quand on a un système où vraiment on est dans quelque chose qui doit être rentable, où les patients doivent rester très peu de temps à l'hôpital, et comme tu disais tout à l'heure, hein, dans le débat précédent, Xavier, où on le lit à peine le temps de reproduire qu'on remet quelqu'un d'autre, à un moment donné, c'est quand on voit la santé et le système de soins comme une grosse entreprise. Et donc ça, clairement, on ne peut plus fonctionner comme ça. Et donc, nous, on fait partie des personnes qui nous mobilisons contre ça.
Et alors, les besoins et les moyens, la crise du coronavirus, on est toujours dedans. On a parlé beaucoup de la saturation des lits en soins intensifs. Alors, vraiment, ce que je vais dire, c'est peut-être une bêtise. Je demande à ce qu'on corrige s'il y a possibilité de répondre sur ce podcast. Mais à un moment donné, si on a 2000 lits en soins intensifs et qu'on a peur, effectivement, d'engorger tous ces lits, et c'est vrai qu'il faut éviter d'engorger ces lits. Une fois qu'ils sont pris, opérer une appendicite, ça devient dangereux. Un pied cassé, ça prend 48 heures. En Belgique, si je fais un infarct maintenant, normalement, dans les 10 minutes, j'ai un défibrillateur. Mais par contre, je pense qu'on n'a pas pensé durant cette année à ouvrir un peu plus de lits. Donc quand on me parle qu'à un moment donné, on est à 80% de saturation des lits, si on en rajoute 1000, le pourcentage diminue. Moi, ça me paraît bête, c'est de la mathématique élémentaire. Mais donc, il y a besoin, il n'est pas rempli. Parce qu'on veut rentabiliser et on continue encore à rentabiliser. Et on peut citer d'autres exemples comme ça, avec les inondations. On manque de pompiers. Il y a quelques semaines, on parlait de déposer des nouvelles lois qui vont faire péter le rôle de garde des intervenants. Donc c'est plus les faire tourner sur 24 heures, mais tourner en pause de 8 heures. En gros, c'est un peu comme le secteur infirmier, c'est-à-dire on va démarrer la journée avec 5 personnes, l'après-midi c'est 3 personnes et la nuit avec 1 et 2 rappelables, c'est suffisant. Et que se passe-t-il? C'est quand ça déborde et qu'il faut des gens, ils ne sont plus là. Donc voilà vers quoi on se dirige à un moment donné. Je reprends l'exemple des vaccins. On a besoin de vaccins. On a des lignes de vaccins qui pourraient être ouvertes pour produire du vaccin. On les laisse fermer. Pourquoi? J'en sais rien. J'imagine que c'est certainement pour maintenir un certain prix de vaccins. Nos mutuelles européennes sont capables de payer 150 euros la dose de Pfizer. Les Africains ne sont pas capables de payer la dose Pfizer. Qu'est-ce qu'on fait? On vaccine en Europe, on vaccine pas en Afrique. Et on est vraiment dans une sorte de bêtise où on va laisser les Indiens, alors qu'ils produisent le vaccin, on ne les vaccine pas et on a le variant indien. On laisse l'Afrique se contaminer et on ne les vaccine pas. En Amérique latine, ils ont décidé aussi apparemment de faire plus ou moins n'importe quoi. Donc on se crée un espèce de paradis complètement artificiel où on a l'impression d'être... On a l'impression d'être en sécurité parce qu'on s'est fait tous vacciner. C'est ce qui fait qu'ici, on est proche, on n'a pas de masque, on sent sécurité. Mais ça n'existe pas, en fait. Les variants vont arriver des pays qui ne sont pas vaccinés. Alors que si on libérait les brevets et si on vaccinait tout le monde au même moment, on pourrait même se permettre d'accepter celui qui dit non à la vaccination. Parce que grosso modo, au niveau mondial, vacciner 60%, ça mettrait un stop incroyable. Ça ne solutionnerait pas le coronavirus, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'on freinerait les variants, on freinerait l'épidémie, ça nous laisserait souffler et ça permettrait à celui qui dit non, je suis contre le vaccin, de pouvoir continuer à dire non. Donc même celui qui veut continuer à dire non devrait aussi libérer finalement les brevets sur les vaccins en se disant on a besoin de vaccins, vaccinez s'il vous plaît. Donc voilà, les besoins, la demande. En fait, je pense qu'il y a toujours un billet à gratter. Tu parles de rendement, et tant qu'on fait du rendement, que ce soit avec les pompiers, les secours, la sécurité sociale, l'éducation, on se cassera toujours la figure. Donc voilà, bon, avec ce que je suis en train de dire politiquement, on a remarqué que j'étais de gauche, je suis... Mais je suis grillé. Je ne suis pas pour tout collectiver, tout collectiviser, qu'on continue à spéculer en bourse avec des iPhones, ça ne me dérange pas, mais je pense qu'il y a vraiment des matières essentielles qui doivent rester du bien commun. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on a besoin, on se sert, et ça doit être réalimenté. Ça s'appelle la sécurité sociale, entre autres, et tant qu'on en a besoin, ça doit être réalimenté. Voilà, point de vue de Xavier.
Donc on dénonce ici la marchandisation des soins, qui est en grande partie responsable de la situation actuelle. Nous, ce qu'on exige, c'est des moyens financiers, humains, matériels et donner plus de place aux patients, aux soignants et soignantes dans les prises de décision concernant la santé. On parle de santé, mais ce n'est pas seulement des soins. On demande aussi de prendre en considération et aussi d'améliorer tous les déterminants de la santé qui influencent la qualité de vie et la santé des gens. Et ça passe par le logement, ça passe par... décriminaliser le travail du sexe, ça passe par régulariser les sans-papiers, ça passe par plein de choses comme ça qu'on demande au pouvoir public de réglementer, légiférer et donner des moyens.
Et moi de mon côté, donc on parlait de besoins, mais en fait déjà de se demander de quels besoins on parle, parce que et on en a parlé lors du débat tout à l'heure et je trouvais ça très intéressant, c'est peut-être qu'on part un peu pas assez en fait des besoins des premiers et des premières concernées et donc déjà de quels besoins on part, est-ce qu'on part des chiffres, d'une logique de chiffres, de rentabilité, et si on part de là on est totalement en décalage avec la réalité en fait donc déjà ça c'est une première chose. Et puis deuxièmement, je pense que oui, on est dans un système totalement décalé, désolé, j'ai perdu le fil de ma pensée du coup. Oui, donc on est vraiment en décalage avec les besoins du terrain, et comme on dit, on manque de logique sur le long terme. On en parlait tout à l'heure aussi, c'est vraiment des petits pansements. Là, on va parler de pansements sur des hémorragies en fait. Et on vient tout le temps essayer de colmater des trucs qui vont pas, et on n'arrive pas à voir sur du long terme. alors que ça devrait être un bien commun qu'on devrait, on devrait penser à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures et voilà, à tout ce qui s'ensuit. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tellement de défis qui nous attendent, et là, ça va être des besoins qu'on sait déjà formuler, et que ben voilà, on fait un peu la technique de l'autruche et on attend de se prendre une plus grosse vague de celle qui vient de nous nous arriver dans la tronche. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien.
Une chose que j'avais envie de partager aussi, c'est qu'il y a la notion de construction, en fait. C'est-à-dire que quand on parlait de la question, bah oui, la vision de la santé selon un modèle de merchandising, ça manque aussi de concertation, en fait, avec les praticiens de la santé. Parfois, on vient aussi avec des bonnes intentions, en disant, bah, tiens, à tel endroit, on va faire ça, on va proposer de l'argent pour faire ça. Et puis, nous, praticiens de terrain, on se retrouve avec des projets où on se dit, bah, tiens, mais ça aurait été bien quand même qu'on nous demande notre avis. Donc il y a un manque aussi de concertation entre les travailleurs des soignants de tous horizons et les sources de financement. Donc ces espaces existent, mais ils doivent être plus déployés, et clairement on devrait aller vers une logique de co-construction, en fait, dans la réflexion de qui fait quoi, comment, et en fonction aussi des zones. Donc voilà, c'est aller vers quelque chose qui est beaucoup plus co-construit et plus solidaire. Donc voilà, et du coup plus proche des personnes.
Nous sommes ici à Esperanza. Esperanza, les collectifs, les associations, ça ne manque pas. Vous-même, vous faites partie de différents groupes. Je vais vous poser deux questions en une. Vous y répondez comme vous voulez. La première, selon vous, qu'est-ce que signifie résistance collective? Et puis dans la foulée, est-ce qu'on peut vraiment être de toutes les luttes?
C'est une très bonne question et complexe à la fois. Résistance collective, déjà d'être dans un festival engagé comme ça, de pouvoir aborder des thématiques de santé qu'on ne fait pas assez, je trouve, et qu'on limite ça totalement soit au rôle du médecin ou du système de soins très curatif, alors qu'en fait la santé, elle est là tous les jours. Elle est là parce qu'on a accès à la culture, on a la chance d'être au Festival Esperanza aujourd'hui, elle est là parce qu'on crée du lien social, ça nous rend mieux, on est en meilleure forme, on a voilà, une meilleure santé mentale mais aussi physique, et en fait voilà, de pouvoir parler ensemble, de pouvoir se rejoindre, se sensibiliser autour de ça, c'est aussi permettre à chacun de réfléchir et de se mettre ensemble pour pouvoir lutter pour que la santé devienne un bien commun, et que en fait ça devienne quelque chose de transversal à tous les secteurs de vie actuellement. Et pour la deuxième partie de question, en tout cas je réponds de manière très personnelle, et je pense que au fond ça nous regroupe vraiment tous et toutes. C'est qu'en fait toutes les luttes qu'on a énumérées depuis tout à l'heure dans le débat ou jusqu'à maintenant, en fait c'est des luttes de justice sociale, et en fait la santé doit avoir un objectif de justice sociale pour tout ce qu'on met en place, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir la meilleure santé, les mêmes capacités d'être dans un environnement qui lui permet d'être en bonne santé et de le rester, en fait. Et à partir de là, je pense que voilà, on peut faire quelque chose qui regroupe pas mal de luttes déjà.
Delphine a tout dit. Moi, j'avais aussi les mots de justice sociale en tête et de convergence des luttes, parce que je pense que tout ça se rejoint et qu'ensemble, on est plus fort, on a plus de poids. Comme la santé en lutte a organisé sa manifestation et rassemblé pas mal de blocs, comme on l'a dit tout à l'heure, Stéphane n'est plus parmi nous, mais aurait pu en dire quelque chose, donc voilà.
Et mener toutes les luttes, ça fait quand même beaucoup, c'est fatigant, d'autant plus que mardi, je vais à barbecue, je ne serai pas libre. Mais enfin, j'ai remarqué quand même un point commun, je veux dire, allez, 95% de la population, c'est des citoyens qui vivent de leur boulot, de leur intellect, du travail fait au quotidien avec leur salariat, quand ils ont la chance d'en avoir un. Et en fait, une très petite partie de la population vit de tout ça, en fait. Et je trouve que c'est pas normal, à un moment donné, que des actionnaires se remplissent les poches. il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui ne va pas. Alors, est-ce qu'il faut être de toutes les luttes? Je pense que chacun a ses sensibilités et va s'orienter vers sa lutte qui lui semble bien. Mais je pense vraiment qu'il va falloir se rendre compte que, qu'on soit noir, blanc, jaune, peu importe le genre, etc., on a de toute façon beaucoup plus en commun entre nous qu'entre nous et ceux qui sont là en train de... qui sont en train de tenir les cordons des finances par le biais de politiques qui nous font passer la pilule. Et encore une fois, je pense que le capitalisme avec un goût sucré est peut-être plus agréable à manger, à mastiquer, mais ça reste du capitalisme. Et je pense pas qu'ils veulent notre bien, vraiment.
Moi, j'ai envie de rebondir sur la question de la définition de la résistance collective. C'est que c'est aussi en partie personnel quand même, mais aussi d'une observation en tant que praticienne de la santé, comme psychothérapeute. C'est la notion de mutualisation des ressources. J'ai une spécialité en systémique, donc j'aime voir les choses de façon systémique. Et je suis assez adepte de la co-construction en fait des choses, que ce soit avec une co-construction entre le thérapeute et le patient, mais aussi une co-construction avec ce qui se fait. Une des grandes caractéristiques, je trouve, à Bruxelles, par exemple, c'est qu'effectivement, il y a une pléthore d'associations qui fonctionnent bien, qui ont des super bonnes idées. Je trouve qu'il y a un manque de concertation encore. Pour moi, ça devient résistant quand on prend conscience de notre... complémentarité, mais aussi qu'on peut mettre ça en commun et qu'on en vienne à quelque chose de plus large en fait. Voilà. Et alors il y avait une deuxième question mais qui m'a échappé par rapport
est-ce qu'on peut être de tout.
J'avais envie de rebondir là-dessus parce qu'en fait les choses sont tellement imbriquées que commencer à travailler une dimension, c'est travailler toutes les autres en fait. Et donc je pense que oui, on peut être de toutes les luttes à partir du moment où on voit les choses justement de façon globale. Souvent on ne se rend pas compte quand on fait les choses de façon globale, quand on les décortique après, on se dit ah mais oui c'est vrai, en fait toi t'as travaillé là-dessus, moi j'ai travaillé là-dessus et mais dans le fond on a vachement bien travaillé ensemble. Donc je pense qu'effectivement quand on est dans quelque chose de très très global et quand on est dans de la co-construction et de la mutualisation de ressources, du coup oui il y a moyen d'être de toutes les luttes, oui.
Une toute dernière question avant de vous laisser. On est quand même dans un festival où la thématique principale, c'est détour vers le futur. Selon vous, si l'on inventait demain, elle ressemble à quoi, la santé ?
Moi, je souhaite une santé populaire, inclusive de toutes les catégories de la population, qui vise l'amélioration des conditions de vie, le bien-être de toutes et tous, et en faveur aussi de plus d'égalité, d'équité et de droit à la santé.
Je ne vois pas à quel point, je ne suis pas gourmand, mais vraiment une vie tranquille avec une alimentation saine, équitable, sans exploitation. Quand je vais faire mes courses, quand j'achète un t-shirt, j'ai pas envie de me dire j'ai fait exploiter un petit gamin de 12 ans qui travaille en Birmanie sous un immeuble qui s'écroule. J'en ai plus qu'assez de me poser ce genre de questions. Là, je suis papa d'une petite fille qui a 11 ans et je pense que c'est un peu grâce à elle que je me questionne en fait sur le monde. Voilà, il y a des générations futures en fait. Je pense que, penser égoïstement, on va raisonner sur une, deux générations. Moi, ça me plaît de raisonner sur plusieurs générations. Pour moi, c'est ça le vrai héritage. C'est pas la baraque que je vais laisser avec trois bons d'action, un château qui va tenir sur trois générations, parce que la troisième génération va de toute façon tout péter. Donc voilà, non, je pense que la santé de demain, c'est vivre correctement et décemment, je pense, dans un monde simple, juste, où tout le monde peut s'exprimer avec sa différence. Moi, ça me plaît de voir des gens de diverses couleurs, soit de vestimentaire ou de peau, avec plein d'orientations et... Il n'y a pas de bagarre, tout se passe bien, c'est super, ça se passe bien en fait quand on laisse faire les gens et avoir un peu confiance et ne plus avoir peur du mot peuple populiste. Moi ça ne me fait pas peur, je fais partie du peuple et je pense que je suis un gentil et je pense que la plupart c'est vraiment des sympas, mais ça vaut la peine d'aller vers eux pour le constater.
La santé de demain, en effet, c'est un monde juste, équitable, où tout le monde trouve sa place et tout le monde peut aller jusqu'au bout de ses projets sans se sentir discriminé ou mis de côté. Et c'est ce que je souhaite pour les générations futures. Donc, voilà.
Mais je partage aussi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Delphine, avec une notion aussi d'éthique relationnelle, c'est-à-dire de pouvoir que chacun puisse être inscrit et reconnu dans son altérité. Et également, bon, c'est une thématique qui me tient à cœur, mais où l'individu est dans un environnement où il y a un bon dialogue entre les deux et où il y a un respect, en fait, et où ça se passe bien à ce niveau-là aussi. Donc voilà, pour moi, c'est très global, mais voilà, c'est un peu mon idéal de demain et effectivement un héritage que j'ai aussi envie de laisser à mon petit garçon.
Moi, je voulais juste rajouter, je pense que aussi en mot de fin, et parce qu'on est aussi dans le village des possibles, la santé, elle doit arrêter de voir, on doit arrêter de voir les personnes comme des consommateurs. En fait, on me dit qu'elles consomment du soin, mais plutôt que on est des acteurs et des actrices de demain, de ce qu'on peut construire. Et ça concerne tout. Ça concerne notre santé, le système dans lequel on va coexister dans les prochaines années à venir. Et donc, voilà, d'avoir des moments d'échange et surtout de concrétiser tout ça, c'est important. Donc, voilà, j'espère que vous qui nous écoutez aussi vous pourrez en parler autour de vous et surtout ne pas continuer d'échanger autour de ça.
Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présents et présentes pour cette interview à quatre voix. Je vous laisse continuer votre soirée et puis on se dit à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.